Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En RDC, plus de 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école, selon un rapport de l'UNICEF. Dans les centres urbains, on retrouve bon nombre d'enfants qui sillonnent les rues en train de vendre divers articles. Ça peut être l'eau en sachet, des paquets de cigarettes, des papiers mouchoirs, savon et noix de cola, voilà, et autres. Certains sont des cireurs, des petits cireurs dans les coins. Pourtant, leur place, c'est à l'école et non dans la rue. Alors, comment faire face à ces phénomènes d'enfants commerçants? Adélar Kwanzaka est sociologue. Il intervient. Il est sociologue à l'université de Kinshasa. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, premièrement, la première question, c'est bien entendu de savoir quelles sont les causes de ces phénomènes. Qu'est-ce qui fait que, quelles sont les raisons qui font que beaucoup d'enfants se retrouvent aujourd'hui dans la rue en train d'exercer le petit commerce au lieu d'aller à l'école?
Bien, merci beaucoup. Je crois que, en fait, la question que vous soulevez va avec ce qu'on appelle le travail des enfants. Et donc, si vous consultez toutes nos lois, notamment la convention, la loi portant protection des droits, la loi portant protection de l'enfant, et même la convention relative aux droits des enfants des Nations Unies, à laquelle la RDC est partie prenante,
oui,
et ou autres instruments juridiques internationaux comme les instruments du BIT, de l'OIT. Donc, tous ces instruments interdisent le travail à toute personne, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans. Et curieusement, la RDC, qui a une loi dans ce sens et qui est partie prenante aux différents instruments juridiques internationaux, c'est complet à laisser les enfants dans la rue, les enfants travailler dans les petits commerces, et comme sireurs, et même dans les mines, ce qui est extrêmement dangereux.
Mmh.
Donc à cela, les causes sont très nombreuses.
Oui.
Il y a d'abord la pauvreté. Les enfants sont des personnes qui doivent être prises en charge sur tous les plans, sur le plan alimentaire, sur le plan de soins de santé, sur le plan de l'habillement, sur le plan de logement, etc. Mais malheureusement, à cause de la pauvreté dans laquelle la société congolaise est impliquée,
oui,
beaucoup de parents ne sont plus capables de prendre en charge leurs enfants. Et ces enfants, on les laisse dans la rue, et l'oisiveté aidant, ils se retrouvent parfois, à leur propre initiative, travailleurs, disons, de façon autonome, ou travailleurs employés par des gens.
Alors, professeur,
le premier problème, c'est la pauvreté.
La pauvreté, est-ce qu'on peut parler aussi de l'irresponsabilité de certains parents?
Bon, oui, voilà, on y va, effectivement. On ne peut pas peut-être parler de l'irresponsabilité. Oui, bien sûr, dans certains cas, mais c'est surtout l'incapacité des parents à prendre en charge les enfants, à cause de ce que j'ai décrit tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les parents. Il y a l'incapacité de l'État qui influe sur, qui est à la base de l'incapacité des parents à prendre en charge leurs propres enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont pas payés depuis plusieurs années, depuis le pillage de triste mémoire. Et jusqu'à présent, la RDC ne s'est pas encore relevée pour donner de l'emploi aux gens, ce qui fait que beaucoup de parents sont au chômage et ils sont d'office incapables de prendre en charge leurs enfants. Mais l'État devrait les aider pourtant. Et on constate que l'État n'aide pas. Parce que quand vous regardez notre constitution même, il est stipulé là-dedans que l'enseignement primaire est gratuit. Mais c'est ce que l'enseignement primaire.
Oui.
Si les enfants sont dans la rue, c'est entre autres parce que c'est à cause de l'oisiveté, comme je disais. ils ne vont pas à l'école, donc ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire. Ils sont actifs et ils se créent des occasions de s'occuper. Et quand ils ne peuvent pas les créer eux-mêmes, ils se font occuper par des adultes qui les embauchent. Donc voilà un peu quelques-unes des causes qui justifient qui font que les enfants se retrouvent travailleurs, que les enfants se retrouvent dans les rues.
Alors, professeur, aujourd'hui, selon un rapport de l'UNICEF publié en 2011, il y a plus de 7 millions d'enfants qui sont en dehors du circuit scolaire. Mais c'est énorme, c'est dramatique, professeur.
Oui, c'est vraiment dramatique. Les conséquences, on ne peut pas les envisager maintenant. Mais c'est bientôt, là, dans quelques années, dans 5-10 ans, on va voir que tous ces enfants qui ne vont pas à l'école, tous ces enfants qui sont dans la rue, vont constituer un grand danger. D'abord, pour le moment, ils constituent un danger pour eux-mêmes et pour la société. Mais dans quelques années, la situation peut s'empirer. On peut vivre dans une sorte de jungle ici, parce que déjà, maintenant là, pour ne pas peut-être anticiper sur les conséquences, oui. Vous voyez le phénomène Kuluna, vous voyez ce phénomène enfant de rue, ce sont pratiquement des enfants sauvages, des enfants sans repère. Et tous ces enfants-là, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire du point de vue de l'insécurité du pays.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ces enfants se retrouvent dans la rue et ils s'arrangent pour trouver un fonds de commerce ou ce sont leurs propres parents qui leur donnent un peu d'argent pour aller vendre participer aussi aux besoins de la famille?
Oui, il y a plusieurs cas. Il y a effectivement des enfants qui bénéficient d'un appui financier de leurs parents et qui les incitent ou qui les envoient vendre dans la rue. Mais il y en a aussi d'autres qui, de leur propre initiative, se débrouillent pour trouver de quoi s'occuper, notamment les jeunes sureurs, et tous ceux qui transportent, de lourds fardeaux pour aider dans les marchés, dans des grandes places, etc.
Dans les Malais,
donc, il y a
oui.
deux catégories de personnes, donc ceux qui sont aidés par les parents et ceux qui le font de leur propre initiative.
Voilà, donc les raisons, les causes, on retient, vous avez dit, premièrement, c'est la pauvreté des parents et puis l'incapacité, leur incapacité de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors, est-ce qu'il y a-t-il d'autres causes, d'autres raisons à la base de cette situation, professeur?
Oui, en fait, ça, ce sont des causes majeures, parce que je disais que quand les enfants sont encadrés par les parents, quand les enfants sont encadrés par l'État, si l'État appliquait les lois qui font qu'aucun enfant dans la rue et que tous les enfants doivent aller à l'école, il n'y aurait pas ce problème-là. Parce que nous, quand on a grandi même dans cette ville, nous avions à partir de 18h, et disons 19h, pas d'enfants dans la rue. Et on vous embarquait, on vous emmenait à ce qu'on appelait Kingabwa. Donc c'était un centre de transit pour des enfants qui ne seraient pas récupérés, leurs parents, et on les envoyait, l'État les prenait en charge, jusqu'à la majorité sociale. Or, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, l'État a de très belles lois, mais qui ne sont pas appliquées malheureusement.
Voilà. Et ces enfants dans la rue, quand ils passent trop tout le temps dans la rue, qu'est-ce que cela entraîne, évidemment, comme conséquence, professeur?
Les conséquences sont nombreuses et ces conséquences sont dramatiques. D'abord, il y a l'insécurité pour ces enfants eux-mêmes. L'insécurité parce que j'ai vu il y a quelques jours un enfant qui s'est fait arracher ces produits qu'ils vendaient et par des délinquants qu'on appelle Kuluna. Et cet enfant est parti. Non seulement on lui a arraché des histoires, mais quand il a voulu résister, on l'a tabassé sérieusement à mort. Donc là, c'est déjà un problème, une première conséquence, l'insécurité pour ces enfants-là, mais aussi l'insécurité publique. Ces enfants, si je reviens d'abord sur l'insécurité envers ces enfants-là. Il y en a qui sont écrasés, notamment ceux qui vendent de l'eau et autres denrées.
Oui.
Et ils peuvent être écrasés, ils sont exposés aux accidents de la route.
En voulant traverser une
chaussée. Voilà, justement, en voulant traverser la chaussée, ils peuvent être écrasés. Mais il y a aussi le fait du renforcement de l'analphabétisme. Ces enfants ne vont pas à l'école et plus ils sont nombreux à ne pas aller à l'école, plus l'analphabétisme s'intensifie dans le pays. Il y a également, en fait ça c'est peut-être une conséquence générale, mais l'hypothèque même de l'avenir pour ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des petits boulots comme ça, à vendre, etc.? Mais tout cela entraîne en définitive une régression sociale pour l'ensemble de la société. Mmh. C'est une régression sociale qui fait que, peut-être plus tard, on ne sait pas l'envisager maintenant, mais nous risquons, avec cette situation, d'importer la main-d'œuvre qualifiée. Nous ne formons pas les jeunes aujourd'hui, nous n'aurons pas de main-d'œuvre qualifiée dans les jours à venir.
Oui. Les enfants dans les petits commerces, quelles sont les causes et remèdes? On en parle avec Adela Kwanzaka, sociologue. Deux auditeurs en ligne, patients, nous appellent des Kananga et Joris de Kikuit. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Les enfants dans les petits commerces, causes et conséquences. Passion, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je voulais aussi participer en disant que ce phénomène a des causes plusieurs. Hein.
Oui.
Premièrement, je voulais d'abord souligner que dans notre pays, soit disant la richesse que nous avons, mais il y a beaucoup de la pauvreté. Et de deux, il y a l'irresponsabilité des parents. Tous ces phénomènes, il y a aussi les pasteurs, les soi-disant prophètes qui prophétisent, soit pour tout simplement gagner la confiance de leurs croyants en disant que l'enfant est sorcier et l'enfant un jour pourra peut-être être chassé à la maison. C'est ce peut-être qui pourra être à la base de tous ces phénomènes. Mais pour notre gouvernement, je voulais simplement signifier à ceux que soit sensibiliser nos ONG qui ont toujours à avoir l'habitude de garder ces enfants-là dans les orphelinats et autres là et continuer avec leur travail. Et aussi, il faut se leur aider ces enfants-là parce qu'il y a des groupes d'enfants avec leur leadership. Soit ils sont dans la rue avec leur chef. Vous savez, les colonnes aujourd'hui à qui nous sommes en train de parler, ce ne sont pas les enfants eux-mêmes. Derrière eux, il y a des gros pions qui sont en train de leur entraîner dans tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais aussi participer en disant que la pauvreté, tout comme les responsabilités des parents aujourd'hui au Congo, dépassent mieux. Et aussi, le système des prophètes que nous avons dans notre Congo pour gagner tout simplement les...
Alors, merci. Oui, vous dites que les prophètes sont également la base de cette situation, le travail des enfants.
Justement.
Oui. Merci, patient. Joris Landan, vous êtes à Kikuit dans la province du... à Kikuit dans la province du Bandundu. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'allais commencer d'abord par... faire quelques analyses sur ça avant de poser mes deux questions.
Alors, rapidement, faites rapidement ces analyses.
La grande question que nous devons se poser quant à ça est du partage de la responsabilité. D'autre part, il y a les parents, bien qu'il n'y a pas assez de moyens, mais ont beaucoup d'enfants, ce qui handicape encore plus cette question. Mmh. Et l'autre aussi, c'est l'État. Comme l'invité l'a dit tantôt, l'État n'essaie pas avoir une très bonne politique, surtout sur le plan de l'enseignement et sur le suivi des enfants, vu aussi l'état de notre pays. Quelque part, l'invité a parlé des enfants de la rue. Il a cité qu'ils étaient des enfants sauvages. Alors, j'allais juste poser une question. Qu'est-ce qu'il entend par enfants sauvages? Et comment pourrait-on, dans ces cas, parler de leur resocialisation tant qu'on les traite des sauvages, puisqu'on on ne peut pas les approcher parce qu'ils sont sauvages. Et puis, ma proposition était une bonne politique de la part de l'État sur l'enseignement et l'occupation des enfants et de la part des parents de voir comment planifier les naissances. Parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants sans moyens. C'est aussi de leur faute quelque part. Je vous remercie.
Merci, Joris. Professeur Adela.
Merci. Je commence par l'auditeur de Kipipi.
Oui.
Avec la planification des naissances, c'est une bonne suggestion qu'il fait, mais les parents, pour planifier les naissances, doivent savoir comment les faire. Or, beaucoup de parents ne sont pas informés sur les services de la planification familiale. Donc, c'est une bonne chose. Mais ils sont embêtés aussi par nos us et coutumes, par la prolifération religieuse aujourd'hui, qui interdit qu'on interfère sur la procréation. Mais, en fait, l'auditeur a raison pour dire que on ne peut avoir que le nombre d'enfants qu'on est capable de prendre en charge, d'éduquer, de socialiser jusqu'à la majorité sociale. Alors, ce que j'entends par des enfants sauvages, c'est pratiquement ces enfants qui sont sans repère. Des enfants qui sont dans la rue, qui sont sans repère, qui sont prêts à vous agresser, qui sont prêts à vous trancher la main pour vous arracher votre téléphone, et qui sont prêts à tout pour survivre. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas de repère, qui ne respectent rien, qui n'ont pas appris à vivre, qui n'ont pas appris de normes. Donc, ce sont ces enfants sauvages. Donc, ce sont ces enfants que j'appelle des enfants sauvages, qui sont donc dans la rue.
Et il dit comment arriver à les resocialiser?
Oui, en fait, c'est ce que je disais avant. Hein. Maintenant, il faut d'abord la resocialisation a plusieurs dimensions. Hein. Oui. Il faut d'abord que l'État applique les textes légaux qui existent dans le pays, que l'État applique ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, notamment les engagements pris avec la Convention relative à la protection des droits des enfants,
oui,
et même sa propre loi portant protection des enfants. Il faut que l'État applique, que les enfants aillent à l'école. Si les enfants sont à l'école, c'est une façon de réduire, n'est-ce pas, tous ces problèmes-là. Mais il y a également la resocialisation par le centre de récupération. Et c'est ce qui se faisait à l'époque coloniale jusqu'à quelques années après l'indépendance. Hein. J'ai parlé des Kinshasa. Donc, c'est des choses qui ont existé et qui devraient être revues pour le moment pour éviter que la situation s'empire, quoi. Donc, la responsabilité de l'État est engagée, effectivement, à ce double plan, faire socialiser les enfants, et ceux qui échappent au circuit scolaire, le prendre et le mettre dans les centres de formation, et ceux qui persévèrent dans la délinquance, le prendre et les envoyer dans les centres de rééducation. Donc, je crois que la responsabilité de l'État est fortement engagée dans cette affaire.
Voilà. Et Joris nous dit également que les parents, s'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans la rue en train de vendre, de s'adonner au petit commerce, c'est parce que dans certaines familles, les parents ont beaucoup d'enfants, mais peu de moyens. Alors, pour faire face aux besoins, les enfants doivent aller vendre.
Oui, ça rejoint pratiquement l'intervenant de Kikwit qui parle de la planification familiale. Et puis, en partie, c'est pas tellement la faute des enfants, parce que de ces parents-là, ils ont beaucoup d'enfants, enfin, ils sont pauvres, ils n'ont pas toujours la possibilité de s'offrir de loisirs sains, et ils n'ont pas toujours la possibilité de comprendre qu'il existe des services de planification familiale qui peuvent les aider à réduire leur naissance. Et de l'autre côté, ils sont assaillis par des messages de l'hyper-religiosité qui les poussent à avoir autant d'enfants qu'il y a des étoiles dans le ciel, à ne pas interférer sur la procréation. Donc, il faut un assainissement général de la société pour que ce problème commence à trouver un début de solution.
Bien, avant de répondre à Patient, nous allons accueillir des autres auditeurs, Raphaël Tumunga de Lubumbashi et Neville Kuminga de Kananga. Raphaël, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, rapidement?
Oui, j'ai un avis concernant les questions d'aujourd'hui. Je trouve que la façon ou le système que les enfants sont en train de se sont donnés dans la vente des choses dans les marchés, dans les lieux publics, j'ai trouvé ça que c'est normal par rapport à notre milieu, dans la mesure où les parents ne sont pas bien payés, et puis pour que les enfants puissent étudier, surtout pendant des vacances, les parents cherchent certaines activités pour donner aux enfants, pour qu'ils puissent chaque fois aller vendre de la bière, que les parents puissent avoir des moyens pour les faire scolariser, les vêtir, les nourrir. Moi, j'ai trouvé ça que c'est bon et ce n'est pas de la normale, pas à notre milieu.
Alors, vous trouvez, Raphaël, vous trouvez que c'est bon, que les enfants, c'est tout à fait normal de retrouver les enfants dans la rue en train de vendre au lieu d'aller à l'école?
Oui, oui, par rapport à notre milieu. Parce que si nous disons aujourd'hui, si nous condamnons que cela ne que nous puissions supprimer cela, non, les enfants doivent étudier parce que par défaut, l'insuffisance des moyens de la part des parents. Si les parents n'ont pas de moyens, ils peuvent passer aussi par une telle voie en initialisant les enfants pour qu'ils puissent commencer à vendre des choses. Et là, peuvent leur accorder plus les moyens qui peuvent les permettre de les scolariser.
Bien, merci. Neville Kuminga, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody, et surtout bon retour. Hein.
Merci, Neville. Quelle est votre question?
Oui, moi je crois que c'est d'abord fondamentalement un problème de la pauvreté qui caractérise notre société, comme le professeur venait de le dire tout à l'heure.
Oui.
Mais je voudrais aussi circonscrire les débats tout en faisant beaucoup plus appel à l'aspect juridique lui-même. Mm-hmm. Parce que dire d'abord que les enfants sont à la rue, ils sont en train de vendre, ils ne vont pas à l'école, ce n'est essentiellement pas ça. Il y a des enfants qui vendent l'avant-midi hein, et puis vont à l'école l'après-midi, mais des mineurs. Il y a aussi des enfants qui, au retour de l'école de l'avant-midi, l'après-midi, à cause de la situation critique du ménage, ils vont vendre. Alors, comprenez déjà que du point de vue de la majorité, c'est pas bien. Comprenez? Mm-hmm. Les mineurs ne peuvent pas poser des actes juridiques. On dit tout acte posé par un mineur est nul. Alors, d'abord, à ce niveau-là, il faut déjà dire que ce n'est pas bon d'envoyer des petits-enfants pour vendre les biens. C'est d'abord ça, la première préoccupation. Bon, en fait, ma première idée.
Oui.
La deuxième idée, je crois que il faut aussi contextualiser les lieux. Par exemple, au Kasaï occidental où je suis, du côté de Tchikapa où il y a des mines, les enfants ne font pas ça. Ils peuvent ne pas aller à l'école, mais ils vont dans les mines. Alors, les enfants qui grandissent à côté des campus, les enfants qui grandissent à côté des missions catholiques, etc., ces enfants ont seulement le goût d'aller à l'école. Donc, ça dépend du modèle qu'offre la société. Ça dépend du modèle que la société offre. Et puis, vous voyez aussi l'éducation diffuse, comme par exemple, vous regardez à la télévision, etc. Donc, ça dépend d'un milieu à un autre. Il y a des milieux où les enfants ne veulent pas entendre de leur oreille les petits commerces. Ils veulent seulement, quand par exemple, dans une famille, il y a des gens qui sont beaucoup diplômés, ils disent, non, nous devons être comme les gens-là. Donc, ils ne peuvent pas peut-être penser au commerce. Mais quand on est dans un milieu où il n'y a que les commerces qui battent en plein, alors les enfants peuvent déjà avoir ces goûts-là.
Oui.
Et il y a aussi des parents qui obligent et même les enfants à aller vendre. Hein, pas parce qu'ils ne vont pas aller à l'école, mais ils disent, bon, écoutez, moi, je vais d'abord aller faire telle chose, va me remplacer à la pharmacie. Ouais, va me remplacer au niveau de la photocopieuse, là, parce qu'il y a des enfants qui, des petits enfants qui font la photocopieuse, oui, la photocopie, etc. Donc, c'est vraiment un problème. Et puis, le système éducatif lui-même est fracturé. Hein, vous comprenez? Donc, c'est tout ça là qui est à la base... que, à part les causes que les profs ont énumérées, mais je pouvais aussi ajouter cela et je vous remercie.
Merci Neville. Sylva Kabeya, vous êtes aussi à Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute rapidement.
Par rapport à ce phénomène, pour moi, je trouve que c'est un phénomène qui est la conséquence de la mauvaise politique de notre pays. Bon, c'est vrai que notre discours a qualifié certaines catégories des enfants comme étant des enfants sauvages, oui, mais c'était pas aussi entre guillemets, nous sommes sauvagement aussi gérés. Comment on peut commencer à résoudre ou à gérer un pays avec des solutions qui sont précaires, hein? On ne projette pas, on ne sait pas comment peut-être qu'après 10 ans, la société va se comporter. Donc nous avons une politique de subsistance qui subit les événements, ce qui n'est pas bon.
Oui.
C'est un phénomène qui a commencé depuis le pillage. Le gouvernement n'était plus à l'époque capable de gérer les parents, de les tenir correctement. Et les parents se sont trouvés dans l'impossibilité de prendre leurs enfants en charge et se sont retrouvés dans la rue.
Alors, est-ce que vous avez une question à adresser rapidement au professeur?
Oui, je voulais demander au professeur s'il peut demander, parce que lui, il a la possibilité d'apprendre contact avec les grandes autorités, qu'il projette comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces enfants-là qui vont à l'école. Effectivement, il y en a qui vont aussi à l'école le matin et le soir ils vont. Il y en a qui vont le matin et le soir ils vont à l'école. Il y a les autres aussi qui vont juste pour aider leur famille. Il y a les autres qui ne vendent même pas, qui ont des sachets, qui sont entre guillemets tireurs, mais qui filent les gens pour voler, faire des gaffes. Si on peut trouver une solution par rapport à ça, ça nous aidera beaucoup.
Merci. Professeur Adela.
Allô?
Oui, professeur, vous avez suivi les interventions des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, je crois que en fait, je reviens sur Raphaël, qui dit que la situation est normale.
Mmh.
Je trouve que les enfants, la place des enfants n'est pas au travail. J'ai dit que la RDC est signataire des textes juridiques internationaux qui interdisent le travail des enfants âgés de moins de 18 ans. Donc ça, c'est pas une situation normale, quoi qu'il en soit. L'État doit prendre ses responsabilités, faire en sorte que les enfants aillent à l'école et que ceux qui ne vont pas à l'école puissent, que l'État puisse trouver des mécanismes pour les socialiser, les mettre dans les centres d'apprentissage. La vente, c'est pour les parents eux-mêmes. Si les parents trouvent qu'ils n'ont pas de travail, s'il faut vendre, ils peuvent vendre. Il y a beaucoup de parents qui le font. Il y a beaucoup de femmes qui vendent du pain et autres denrées. Donc, c'est pas aux enfants d'aller vendre. Donc, l'État devrait appliquer les lois. Mais pour appliquer les lois, il faut que l'État lui-même soit fort, qu'il soit capable de payer de façon convenable les parents pour que ces derniers prennent en charge les enfants.
Mm-hmm.
J'ai vu, par exemple, j'étais en voyage à Lubumbashi, je vois pas, c'est au centre-ville de Lubumbashi, il n'y a pas vraiment d'enfants avec le paquet sur la tête. Je crois que ça pourrait être un bon exemple si on peut le généraliser pour l'ensemble des villes du pays, pour l'ensemble du pays. Même en milieu rural.
Alors Neville nous dit que certains enfants mineurs vendent le matin et les après-midi ils vont à l'école, ou soit s'ils vont à l'école le matin, les après-midi ils vont vendre pour avoir un peu d'argent pour payer le minerval.
C'est pas normal ça. Ils doivent pas vendre, ils doivent aller à l'école seulement. Ils doivent aller à l'école seulement, ils doivent pas vendre. Ceux qui doivent vendre, ce sont les adultes, leurs parents ou ceux qui sont plus âgés. Les enfants ne doivent pas les vendre. Je vous ai donné les conséquences, les dangers auxquels les enfants qui travaillent sont exposés. Ils sont parfois, on leur rafle pratiquement toutes leurs économies, en fait, ce qu'ils encaissent comme économie quand ils vendent. Donc, ce n'est pas normal. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que les enfants ne vendent pas, pour que ces enfants aillent à l'école. Et il doit appliquer le texte qu'il a pris lui-même.
Oui. Alors, Neville nous dit également que c'est aussi un problème des modèles. Les enfants suivent les modèles dans la société, bon, là où ils évoluent. Il y a certains qui refusent de vendre, bon, ils vont à l'école. D'autres enfants, par exemple, le papa a une petite pharmacie, bon, quand il se déplace, bon, tu viens me remplacer, me vendre en mon absence, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect?
Non, je reviens toujours sur une chose, Les enfants ne doivent pas travailler. Les enfants, nous, quand on grandissait, on n'était même pas associés aux affaires d'argent. Parce que une fois l'enfant a pris le goût d'argent, de gérer, de recevoir l'argent, il perd tout goût pour autre activité, pour l'apprentissage, pour l'école. Donc, les enfants ne doivent pas travailler, qu'importe ce travail-là. Les mineurs ne doivent pas travailler. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte que l'État congolais lui-même a pris. Et le texte auquel il a souscrit, le texte international. Donc, l'État doit prendre ses engagements pour que les enfants aillent à l'école ou bien dans les centres d'apprentissage.
Alors, aujourd'hui, on parle de plus de 7 millions d'enfants dans la rue. Et qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui exactement pour résoudre ce problème? Doit-on recourir à la gratuité de l'enseignement pour permettre ainsi à tous les enfants de pouvoir étudier?
Oui, mais l'État lui-même a parlé de la gratuité. Dans la Constitution, si vous lisez... Et donc, il y a la gratuité de l'éducation fondamentale.
Mmh.
Et l'État ne devrait pas dire une chose et faire une autre. Et aujourd'hui, si je vous l'ai dit au départ, si beaucoup d'enfants sont dans la rue, c'est entre autres par oisiveté. Ils ne vont pas à l'école, donc ils cherchent à créer une activité pour eux. Et l'État doit savoir que dans les jours à venir, la situation risque d'être ingouvernable avec ces enfants que j'ai qualifiés d'enfants sauvages. Et c'est très dangereux, nous en avons déjà des preuves dans la ville de Kinshasa avec le phénomène de Kouluna qui est en train de prospérer allègrement. Donc c'est vraiment dangereux.
Professeur Adela Kondaka, sociologue, merci et à la prochaine.
Merci à vous.